Bonjour à tous, bienvenue à Fenêtre sur cour, une émission réalisée en partenariat avec la Cité de la CAF et avec le soutien de la Fondation de France. Vous êtes aujourd'hui avec
Maddy,
André,
Annie,
Guylaine
et Micheline.
Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour la dernière émission avant le break estival. Aujourd'hui, l'école est finie, ou presque. On vous emmène faire un petit tour du côté de Pointe-Jallieu à l'école maternelle Maurice Carême. Une école qui rappelle plein de souvenirs pour beaucoup d'habitants du quartier. Et puisque c'est l'été, les festivals arrivent. Dans les environs proches de Bourgoin-Jallieu, nous avons le festival Moulin-Stock à Saint-Victor-de-Cessieux les 25 et 26 juillet.
Si je dis Maurice Carême, tout le monde, j'imagine, connaît ce grand poète, cet instituteur poète. On a donné son nom à Bourgoin-Jallieu à une petite école, celle qui est au bord de la rivière au pont de Jallieu. Et comme il le dirait lui-même, on dirait qu'on entend pleuvoir le temps, usant les vieilles pierres de la rivière. On dirait qu'on entend pleuvoir les ans, qu'emportent doucement les eaux du temps. C'est vrai, l'école Maurice Carême va fermer ses portes. Alors nous recevons aujourd'hui Claudie Baird, qui a été pendant très longtemps la directrice de cette école. Claudie, pouvez-vous nous dire en quelle année vous êtes arrivée dans cette école et ce qui vous a fait faire le choix d'y travailler?
Oui, bonjour. Je suis arrivée donc à l'école du Pont en 1973. J'ai pris la direction pour une année seulement. Et ensuite, il a été nommé donc une autre directrice, Madame Huet, qui est restée donc jusqu'en 1978. Et ensuite, c'est moi qui ai pris la direction de 1978 à 1990. Voilà, mes motivations, eh bien, j'étais toute nouvelle donc dans l'enseignement. J'avais fait un peu de primaire, d'école primaire. Et puis ensuite, j'ai fait une année à l'école de Champfleury en maternelle. Et la maternelle, tout de suite, pour moi, a été une grande révélation. Je me suis sentie bien avec les jeunes enfants. J'avais envie de materner. J'avais beaucoup de patience. Je viens d'une famille nombreuse. Donc tout ça faisait que j'avais envie. Je me suis sentie bien. Et bien en plus dans cette école, car elle m'a vite appartenu. Voilà.
Madame Baird, oui, faisons une plongée dans l'histoire. Racontez-nous la construction de cette école, sa naissance, pourquoi ce lieu, le pont de Jallieu, sa création. Quel est l'architecte? Parce qu'elle a une architecture un petit peu particulière, l'architecte donc qui a construit cette école.
Oui, c'est en 1925, donc à la demande de Monsieur le maire, le projet de construction donc d'une école à Bourgoin-Jallieu voit le jour sous le nom de l'école du pont. Après plusieurs appels d'offres, c'est l'architecte, donc Monsieur Lambert, qui prend en main le chantier qui s'étalera sur 5 ans. Et c'est en 1930 que la maternelle à classe unique est inaugurée. Voilà, en 1934, l'ouverture d'une deuxième classe, et en 1947, une salle de motricité est construite. Voilà, c'est donc l'architecte qui a construit, c'est Monsieur Lambert.
Oui, parlez-nous de Monsieur Lambert, parce que cette école a vraiment une architecture très particulière. Bon, c'est le style art déco. On connaît cet art déco par l'architecte Ribollet sur Bourgoin, qui a fait beaucoup de bâtiments. Et il y a une spécificité de cette école.
Oui, c'est une école très claire, avec de grandes baies vitrées, des plafonds assez hauts, des jardinières intégrées. Donc c'est un peu le style art déco, hein, qui est très agréable à vivre. On avait l'impression de vivre dans un atelier de peintre, avec cette lumière qui entrait. Donc ceci était très intéressant pour cette petite école.
Alors moi, je vais demander une petite précision, parce qu'on parle une fois de l'école du Pont, une fois de l'école Maurice Carême. Donc elle a apparemment eu deux noms, cette école. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment elle a changé de nom et qui est-ce qui a choisi ce nouveau nom?
Alors, cette école était placée donc à côté d'un pont, donc d'où ce nom. Et puis ensuite, il y a eu la construction donc de l'autoroute, donc s'est ajouté un deuxième pont. Et je trouvais que c'était pas sympathique, c'était pas très joli pour cette école. Donc en 1990, c'est l'année où je suis partie, j'ai demandé donc à changer le nom de cette école. Et comme ce poète Maurice Carême était très utilisé et très très couru en maternelle parce qu'il avait des poèmes vraiment très sympathiques et tout, j'ai donc donné ce nom-là pour rebaptiser l'école.
Et votre proposition a été bien accueillie.
Et la proposition a été bien accueillie et elle est gardée jusqu'à présent.
Évoquez-nous un petit peu votre vie dans cette école. Bah, par exemple, les fêtes, s'il y a eu des kermesses, des petites anecdotes, des choses, des petits mots d'enfants, ce qui fait la vie d'une école maternelle. Surtout une petite école intimiste comme ça, avec deux classes. Vous devez avoir des tas de choses à nous raconter.
Oui, bien sûr. Bon, c'était une école, oui, avec quand même pas énormément d'élèves. Donc, on avait 25 élèves, 26 élèves par classe. Donc, c'était très familial. Hein. Les parents, on les voyait tous les jours. Donc, on pouvait très facilement discuter avec eux. Donc, de ce côté-là, c'est Le noyau était vraiment était facile. Alors c'est une école qui accueillait pas mal d'enfants étrangers, en particulier donc des enfants maghrébins, des portugais. On avait aussi des turcs. Donc les rencontres avec les parents de cultures différentes étaient très intéressantes. Donc on a ouvert, ça a été la période où on a vraiment ouvert l'école, hein, à toutes ces cultures. Donc on a fait rentrer un petit peu les parents dans l'école, on a fait des échanges de goûter, on a fait, il y a eu des fêtes donc pour avec des mamans qui nous préparaient du couscous, qui nous préparaient donc des pâtisseries maghrébines, et tout ça faisait que les enfants s'intégraient donc beaucoup mieux, hein, puisqu'ils souvent ils arrivaient sans la connaissance de la langue française, hein, donc c'était un petit peu des enfants des primo arrivants. Donc on a fait énormément de choses. On a fait des fêtes, mais surtout des classes de neige. Hein, moi, je suis partie 3 fois en classe de neige. On est partie aussi en classe de mer. On a fait des sorties au parc de la Tête d'Or. On a fait des échanges avec une autre école, en particulier l'école, donc une école de la Tour du Pin, avec des sorties en piscine. On a ouvert donc cette éducation aussi sur tout un programme de gymnastique en salle avec du gros matériel. On faisait donc avec les parents qui venaient donc nous aider à encadrer tous ces ateliers. Donc tout ça a fait que vraiment c'était une unité, quoi. L'école on partageait beaucoup de choses entre les parents et les enfants.
Est-ce que vous pensez que tous ces échanges constructifs étaient dus au fait justement de la petite structure de...
Ça, j'en suis persuadée. Hein. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette école. C'était cette petite unité, hein, où tout le monde se connaissait. Voilà. Donc il y avait une confiance. Il y avait des échanges qui étaient beaucoup plus faciles, des échanges directs qui étaient faciles à avoir avec les parents. Et ça, je pense que c'est l'idéal. C'est l'idéal pour travailler donc en classe maternelle. C'est ce que je regrette beaucoup maintenant, où on a des unités beaucoup plus importantes et finalement personne ne se connaît, alors que là vraiment tout le monde se connaissait et il y avait beaucoup d'échanges.
Et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir parmi nous une ancienne élève de cette école, Micheline Duplan, notre conteuse célèbre qui a fréquenté les bancs de cette école. Micheline, apportez-nous votre témoignage.
Eh bien, c'est vrai que moi, j'ai été dans cette petite école, les premières années d'école, et je dois dire que j'en garde un souvenir illuminé. D'abord, j'expliquais qu'on descendait à pied de la maison, on était 7, on cueillait des fleurs sur le chemin, puis on arrivait à l'école. Et là, à l'école, eh bien, Oh, dans cette école, j'y ai appris à lire. Mais je me souviens pas d'avoir appris à lire avec difficulté. C'était naturel. C'était pas difficile d'apprendre à lire dans cette école, j'ai l'impression. Et puis je me souviens aussi des diapositives qu'on nous passait. Chaque année, au même endroit dans l'école, on nous passait l'histoire de la petite souris et l'histoire de la poule rousse. Je sais pas si la maîtresse n'avait que ces deux séries de diapositives, ce qui est bien possible à l'époque, puisque je suis né en 1946. Et en tous les cas, c'est des histoires que je raconte maintenant, et quand je les raconte, eh bien, je vois des images de cette petite école. Puis alors, il y avait la fête de Noël. Et là, c'était le bonheur, parce que le Père Noël arrivait. Le vrai Père Noël, hein. Et puis, il nous donnait un cadeau à chacun, le Père Noël. Et on dansait. Et voilà, ben, c'était le bonheur, quoi. Et quand je suis partie à l'école du centre, ben, c'était beaucoup moins facile, je peux vous le dire.
Est-ce que tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure nous faisait sentir une certaine ouverture de l'école sur l'extérieur? Donc, vous avez passé 18 ans dans cette école. Vous avez certainement vu pas mal de choses changer. Alors, on a un petit peu envie de vous demander qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution dans votre profession d'abord, et puis au niveau des enfants et au niveau des parents. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur ce que vous avez vu?
Oui, je vous parlais beaucoup de la confiance qu'il y avait donc avec les parents. Les parents vous donnaient vraiment entière confiance. Hein, ils vous laissaient leurs enfants, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur vous, que c'était pour eux une façon donc de donner donc leur confiance complètement. Donc ils se dégageaient complètement, alors que dans les années après, cela était, le rapport avec les parents était beaucoup plus difficile, beaucoup plus lointain et peut-être un petit peu plus agressif.
Ma maman, moi, me disait toujours que l'institutrice était à respecter parce que c'était comme une seconde maman.
Voilà, hein, en maternelle, on est une deuxième maman. Mm. C'est vrai, c'est vrai.
Et vous avez constaté des évolutions favorables? Parce que là, c'est une petite évolution qui a l'air d'être un peu... Enfin, on sent de la nostalgie dans votre voix. Mais dans les évolutions, je veux dire, des rapports avec les parents et au niveau des enfants, qu'est-ce qu'il y a de positif?
Au niveau des enfants, là c'est très facile, hein, quand on a sa classe en main, un petit peu d'expérience, les enfants vous en maternelle, ils vous donnent plein d'amour, hein, ils sont là, ils attendent plein de choses. Ça, je pense que ça n'a pas changé, hein, c'est toujours là. Bon, les rapports, les dernières années que j'ai pu vivre donc en école maternelle, les rapports avec les parents étaient beaucoup plus difficiles.
Est-ce que vous avez l'impression que votre métier a changé? Votre métier, ce qu'on attendait de vous, ce qu'on vous demandait? Sur les 18 ans que vous avez passés dans cette école, je veux dire, vous avez vu évoluer votre profession?
Moi, je l'ai toujours fait évoluer, hein, je l'ai fait évoluer pour être le mieux possible dans ce que je faisais. J'ai adoré donc ce métier. Je peux dire que vraiment, je me suis fait plaisir. J'ai eu des retours très 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 importants. J'en garde, oui, une certaine nostalgie.
Mais moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a compliqué la vie? Qu'est-ce qui vous a facilité la vie?
Je pense que c'est la petite structure. C'est sur l'école du pont. Après, j'ai fait l'école Prébéni, qui était aussi une petite structure de 3 classes et tout. Et là, on s'y sent bien mieux. Il y a des rapports entre les personnes qui sont plus fortes, qui sont plus en confiance. On se connaît mieux. Donc, il y a un travail d'équipe. Après, qui se fait dans une petite structure que je ne pense pas dans une grande structure plus compliquée.
Cette école, justement, qui avait l'air aussi merveilleuse, aussi, eh bien, écoutez, on se pose la question, pourquoi la fermeture?
Alors là, je ne comprends pas toujours bien donc ces solutions-là, mais une nouvelle école donc a été construite Et bon, moi, je n'en suis plus la directrice, donc j'ai plus vraiment les tenants et les aboutissants de cette décision. Elle a souvent été frappée justement de fermeture au moment de la construction de l'autoroute. Il a été aussi question qu'elle ferme, hein, parce que c'était une nuisance sonore, une nuisance visuelle aussi. Il a fallu s'adapter et puis se battre pour que cette école ne ferme pas au moment de la construction de l'autoroute. Il en était vraiment question. On s'est battu, ils l'ont bien aménagé, ils ont fait un mur anti-bruit. Ça a été l'occasion justement de faire des fresques, de décorer, de faire de grimper du lierre. Enfin bon, on a essayé par tous les moyens de rendre ce mur un peu moins agressif. Et puis finalement, elle a duré, et là, c'est fort dommage, je pense, mais ça, c'est plus de notre ressort.
Est-ce que les effectifs ont diminué, ou c'est peut-être ce qui a causé la fermeture, ou est-ce que les effectifs sont restés stables dans toutes ces années?
Ce sont deux classes, donc on peut pas dépasser un effectif, hein, c'est 30 maximum, 60. Je pense que là, elles sont à 45. Alors, est-ce que c'est en dessous de ce qui est raisonnable pour laisser une école ouverte? Je ne sais pas.
C'est peut-être plutôt la situation géographique, justement, parce que c'est vrai qu'elle est dans un virage, un endroit où il y a beaucoup de circulation.
Oui, il y en a, mais beaucoup moins que lorsqu'il n'y avait pas la déviation là d'Henri Barbus. Nous, on a eu des problèmes donc de sortie d'école qui étaient vraiment dangereuses, hein, parce que c'était complètement sur la rue de Funa. Et ça a été donc déplacé. Alors c'est vrai que cette école a été transformée, je l'ai vu se transformer au cours de toutes ces années, avec donc un aménagement d'un dortoir pour la sieste des enfants, avec l'aménagement d'un petit coin jeu. On a changé aussi donc l'entrée, on l'a mis sur le côté. Non, tout ça a bien changé cette école. On a baisser les plafonds, parce que ça aussi, il y avait toute une déperdition de chaleur. Les baies vitrées aussi n'étaient pas du tout conformes. Donc, ils ont fait énormément de travaux sur cette école. Il y a eu aussi les toilettes. Enfin bon, tout ça, ça a été transformé tout au cours de la vie de cette école. Bon, maintenant, c'est son temps qui est fini, peut-être.
L'école Maurice Carême va donc fermer ses portes. Et j'ai là la lettre de la dernière directrice de cette école, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Mais avant, eh bien, laissons parler encore Maurice Carême, puisqu'il parle si bien de l'école. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes, au-dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Des fleurs y grimpaient aux fenêtres, comme on n'en trouve nulle part, et dans la cour gonflée de hêtres, il pleuvait de l'or en miroir. Sur les tableaux, d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules où de l'aube au soir nous glissions vers de nouvelles péninsules. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Ah, que n'y suis-je encore dedans pour voir au dehors les colombes. Et voilà ce que Marie-Jo nous dit. Ce ne sont peut-être pas des hêtres qui gonflent notre cour, mais ce sont bien des générations de colombes qui l'ont animée depuis sa construction en 1934. L'école du pont de Jallieu, comme la nomment encore ses anciens élèves, fête cette année ses 80 ans. Elle a couvé des générations d'enfants qui ont gardé pour ce lieu un attachement particulier. Elle a parfois abrité un grand nombre d'élèves, voire même un très grand nombre. En 1962, en raison du contexte politique, chaque classe accueillait une cinquantaine d'élèves, dont beaucoup revenaient d'Algérie. Quel drôle d'emplacement pour une école ! Dans un virage et sous le pont d'autoroute ? Mais c'est peut-être bien là son secret. Les enfants finissent par rêver que les camions volent au-dessus de l'école ou que l'on se trouve au beau milieu d'un circuit de voitures. Et ce bâtiment, alors ? On dirait une maison blanche en miniature avec son escalier central qui vous accueille comme des personnalités. Il en a peut-être vu passer. En 1990, on lui donne le nom d'un instituteur poète, Maurice Carême. Désormais, pas une année sans honorer la mémoire de ce grand personnage. Ses poésies sont apprises par cœur et avec une telle facilité. À plusieurs reprises, on annonce la fermeture imminente de cette structure maternante. Puis on se ravise et on la rénove pour la faire tenir encore un peu. Mais voilà, tout a une fin et l'école Maurice Carême a fait son temps. Alors, pour que cette école nous laisse un dernier bon souvenir, nous comptons lui offrir une belle cérémonie de clôture le vendredi 20 juin à 18h. Marie-Jo Cosma.
Après cet émouvant hommage à cette école, la chanson de Hugo Frey s'impose. Adieu, monsieur le professeur.
Les enfants font une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. L'assistance se lève une dernière fois, les enfants vont chanter.
Vous êtes toujours sur Couleur FM et à l'écoute de l'émission Fenêtre sur cour.
Et on reçoit
dans le cadre du début de l'été, Yannick et Gérald, qui sont organisateurs du festival Moulinstock à Saint-Victor-de-Cessieux.
Nous allons vous donner un extrait de Boulevard Désert.
Je songe à mon bonheur personnel, et personne à part elle et ses yeux, bla 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 bla. Je suis là de tout, comme un chardon séché qui n'est plus bon qu'à jeter. Je songe à mon bonheur personnel, et personne à part elle et ses yeux, bla 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 bla. Je suis là de tout, comme un chardon séché qui n'est plus bon qu'à jeter. Un blagueur à mes heures, mais tout n'est qu'un leurre. L'heure viendra de dire à mon tour, l'heure viendra de parler d'amour, quel plaisir.
Alors on va commencer peut-être par la carte d'identité de l'association. Racontez-nous un peu comment ça s'est créé.
Alors l'association, elle s'est créée en réalité il y a 2 ans. C'est un groupe d'amis à la base qui organisait l'anniversaire de l'ex-président d'ailleurs de l'association sur le terrain du Moulin Saint-Victor-de-Cessieux. Un terrain qui a une histoire, puisque pour la plupart on a été scolarisés dans cette commune, on est tous originaires de Saint-Victor-de-Cessieux. C'est le terrain où on allait faire le sport avec l'école à la base, et c'est un terrain qui est en pleine nature sur les hauteurs du village, je dirais propice à organiser des fêtes entre amis. Et de cet anniversaire où les gens étaient invités, où c'était participatif, on va dire, autant pour toute la logistique que pour la musique, à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas atteindre ce qui était un petit peu un rêve pour tout le monde, essayer d'organiser une manifestation culturelle, musicale sur ce terrain-là. Et ça a démarré du coup il y a trois ans, ça a démarré. On a fait une première expérience toute petite avec des groupes essentiellement locaux qui sont venus jouer, les gens du village qui se sont mobilisés très très fort autour de ce projet pour arriver à l'an dernier où on a franchi, je dirais, une marche très importante et où s'est inscrit dans les festivals isérois de musique.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez, je veux dire, en mettant en place une manifestation de ce type-là? Vos objectifs, c'est quoi?
L'objectif, avant tout, c'était, parce que ça va rester l'objectif du Festival Moulinstock, c'est le partage, tout simplement. De pouvoir prendre la responsabilité de l'organisation d'un événement comme ça, mais essentiellement pour le partager, là également, au local. Avec les habitants de Saint-Victor-de-Cessieux, mais pas que. Du coup, le public de Moulinstock aujourd'hui, c'est la région Rhône-Alpes, on va dire, élargie, avec une large place. Par contre, aux gens du cru, comme on dit, et aux familles notamment, puisque c'est un festival sur lequel on retrouve également un village enfant, voilà, avec des structures gonflables, avec de l'animation spécifique pour les enfants et pour qu'ils puissent passer ce bon moment en famille. En gros, pendant que les parents écoutent la musique et regardent ce qui se passe sur la scène, les enfants peuvent être au village enfant. Ils sont encadrés pour un certain nombre d'activités qui leur sont proposées.
Il faut préciser que c'est quelque chose qu'on offre aux parents parce que tout le village enfant est gratuit. Voilà, donc, et c'est pas comme sur certaines manifestations où les parents vont encore payer pour faire amuser leurs enfants. Là, vraiment, ils arrivent et ils sont encadrés par des personnes qui ont le BAFA, etc. Et ils peuvent laisser leurs enfants et profiter de la musique et profiter des copains, etc.
C'est tout l'intérêt de cette manifestation qu'on a voulu intergénérationnelle.
Hein. D'où Génération Moulinstock pour l'association.
D'où le nom de l'association, voilà, Génération Moulinstock. On retrouve des enfants.
Génération au pluriel,
tout à
c'est
fait.
C'est important de préciser.
Mais on peut qualifier le festival d'un festival pluriel aussi, dans tous les sens du terme. C'est vraiment sur cette notion de partage qu'on a construit ce projet, et de partage forcément entre les générations.
Si je comprends bien, c'est un petit village. Comment se passe la mobilisation de la part des habitants?
Alors, l'équipe du Festival Moulinstock, tout au long de l'année, c'est une quinzaine de personnes qui préparent, tout l'aspect logistique, financier, administratif et tout ça. Et là, actuellement, on a les bénévoles, pour beaucoup d'ailleurs de la commune, hein, les bénévoles qui s'inscrivent via notre site internet ou qui nous contactent, puisqu'ils nous connaissent tous, pour nous dire, nous, on viendrait bien, comme d'habitude, j'irais filer un coup de main. La particularité de Moulinstock, là encore, je vous dis, l'essentiel des membres de l'association sont du CRU. Pour la plupart, les parents se connaissent. Des gens qui étaient investis auparavant dans la vie associative, déjà à Saint-Victor-de-Cessieux, que ce soit au sous des écoles, au club de foot, tout ça. Donc on bénéficie, je dirais, de ceux qui nous ont montré le chemin de la vie associative. On bénéficie de leur participation également durant toute la semaine de montage et jusqu'au démontage le dimanche et le lundi. Et la porte est vraiment ouverte à l'ensemble des habitants qui souhaiteraient participer au projet.
Moi, ce que je me demande, c'est comment on s'y prend pour créer un festival de musique. Et puis pourquoi de la musique? Pourquoi pas autre chose?
Alors comment on s'y prend? Et on n'en savait rien au départ. Clairement, on ne savait pas du tout comment s'y prendre. Comme l'a expliqué Gérald tout à l'heure, quand on a commencé cette aventure, c'était un barbecue entre amis. À l'époque, il y en avait un petit DJ qui passait la musique. Et au fil en aiguille, on s'est dit, il y a des gens qui préfèrent d'autres styles de musique. Alors pourquoi pas inviter des groupes de styles différents. Et de fil en aiguille, on est arrivé à avoir plusieurs groupes de musique, à avoir un petit peu plus de monde à chaque fois. Donc on a créé cette association parce que dès qu'on a un peu plus de monde, y a un petit peu plus d'argent. Ce petit peu plus d'argent, il faut qu'on l'investisse dans une année, dans l'année d'après, pour faire quelque chose d'être encore mieux, de meilleure qualité, voilà. Parce que c'est toujours notre objectif, c'est de faire quelque chose d'encore meilleur et finalement on a juste commencé comme ça et on est en plein dedans encore. On essaye chaque année de faire quelque chose de meilleur et on se renseigne, on rencontre après du monde parce que de fil en aiguille, on rencontre des gens du métier, etc., qui nous expliquent certaines choses. On se renseigne parce que finalement ça nous plaît aussi de ce monde-là. Et on est toujours des amateurs, mais on commence à se défendre. On est plutôt content de nous et les gens nous le rendent bien.
Et en fait, je veux dire, quel type de musique vous accueillez et pourquoi vous avez choisi, s'il y a un style particulier, pourquoi vous avez choisi ce type de musique?
On choisit des musiques déjà festives parce que on est une bande de copains, on fait la fête, donc on essaie de...
C'est
la musique festive.
Puis on choisit ce qu'on a envie de faire partager aux autres aussi,
Mais vu qu'on est multigénérationnel, on essaye de mettre pour tout le monde, que les petits enfants de 5 ans à la mamie de 80 ans soient contents de venir à notre festival. Donc on a du rock, on a de la chanson française festive, on a de l'électro, on a vraiment de tout style.
Alors votre festival dure 2 jours.
2 jours.
Deux jours. Et par contre, vous avez combien de temps de préparation de ce festival?
Je dirais qu'on a commencé à travailler sur l'édition de cette année, en gros en septembre. En septembre 2013, on s'est laissé le mois d'août l'an dernier pour souffler un petit peu, et dès septembre on a recommencé à travailler sur l'édition de cette année. Il faut savoir que ce genre d'événement, quand on passe la marche qu'on a souhaité passer l'an dernier, c'est aussi sur le plan administratif énormément de travail au niveau de la logistique scénique. On travaille avec des entreprises professionnelles qui parcourent l'Europe entière, qui arrivent avec des semi-remorques de matériel et tout ça. On peut pas les réserver 3 semaines avant. Donc ça veut dire qu'il faut travailler très tôt sur la programmation musicale pour savoir quel type de groupe on aura sur le festival et du coup mettre en place toute la logistique nécessaire à ces groupes-là. Puisque les groupes, en dehors de nous envoyer le prix de la prestation, mais peut-être on aura l'occasion d'en parler, ils nous envoient surtout une fiche technique. Pour les conditions dans lesquelles ils exigent en gros de jouer, ce qui est normal. Aujourd'hui il y a des groupes qui sont professionnels, semi-professionnels dans la programmation Moulinstock et des exigences, et tout ça prend un temps phénoménal. En dehors de ça, il y a l'aspect financier qui est aussi très important. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive au premier jour du festival en ayant un certain volume financier nécessaire au fonctionnement et à payer déjà les premières factures de location de matériel, etc. Donc tout au long de l'année, on va chercher des subventions, on va chercher du partenariat On a réussi à le trouver d'ailleurs, hein, c'est de plus en plus difficile. On entend par-ci, par-là, le désengagement du Conseil général sur la culture, la région où c'est toujours très compliqué, les dossiers région. Voilà, on a réussi à rentrer dans le bon créneau pour ces collectivités-là. Mais tout ça, voilà, tout au long de l'année, c'est un travail qui est très important, qui est partagé entre tous les membres, mais qui est très très important. Et avec des délais, forcément. Oui, ouais.
Alors, qui est-ce qui finance? Qui est-ce qui participe? Qui est partenaire?
Alors, on a un partenariat public, hein, je le disais, le Conseil général de l'Isère, Région Rhône-Alpes, et d'une autre manière, pas directement financièrement, d'une autre manière, essentiellement sur la partie logistique, la commune de Saint-Victor-de-Cessieux. Et ensuite, là encore, on va chercher du partenariat privé, qui est l'essentiel, hein, de notre partenariat, avec des entreprises locales. Et on est vraiment là, on n'a pas de multinationales, on n'a pas le groupe Vinci qui vient nous financer le festival. C'est vraiment les petites entreprises du coin, des plombiers, des maçons, des petites entreprises de TP, voilà. Et donc il faut aller en voir, beaucoup pour avoir le volume nécessaire. Et donc on a un bénévole qui est commercial à la base et qui est un commercial publicitaire. Et donc c'est lui qui s'est chargé de ça, notamment cette année. En temps, ça prend aussi énormément de temps. Mais on peut se réjouir quand même, par exemple pour l'an dernier comme pour cette année, de pouvoir avoir des partenaires comme le Parc Walibi Rhône-Alpes qui nous a demandé à parrainer notre festival parce qu'ils trouvaient que l'état d'esprit et notamment le village enfant, la dimension familiale était vraiment séduisante et qu'en plus le parc Walibi Rhône-Alpes a changé de thématique. C'est un parc d'attractions musicales aujourd'hui, à dominante musicale sur l'ensemble de leurs animations, et ils voulaient un festival en local qui soit partenaire dans la durée, ce qui explique qu'ils seront là d'ailleurs sur le village enfant et avec notamment le samedi, l'animation d'un concours de air guitare. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Où des enfants vont être invités à monter sur la grande scène de Moulinstock avec un fond de musique rock et vont imiter le guitariste. Voilà. Donc c'est la mode là chez les petits loups, ça les aime bien. Il faut qu'ils arrivent à monter sur la scène parce que c'est assez impressionnant quand même. Elle est grande, elle fait 140 mètres carrés, donc un petit bout au milieu, c'est pas évident. Mais voilà, le parc Walibi nous envoie, y compris du personnel, pour animer ça et anime le village enfant avec nous toute la journée du samedi.
Et alors, vous recherchez les artistes qui viennent, vous avez des coups de cœur, comment vous faites?
Ouais, on en discute, on part sur une thématique, on essaie de savoir qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme style musical déjà. Et puis après, oui, c'est au coup de cœur. Donc moi, en fait, mon travail, c'est de répertorier tous les groupes qui pourraient être intéressants, tous les groupes aussi qui nous contactent, puisqu'il faut savoir qu'on a des milliers de demandes. Donc c'est-à-dire que quand on lance la campagne,
c'est impressionnant. C'est vraiment
quand on lance la campagne, enfin, on a mon mail est saturé. Hein. Ouais, et
d'accord, c'est un appel à
on
musique. En fait,
voilà,
lancer la campagne
on lance un appel
réseau,
sur le réseau, sur, on peut dire, sur Facebook,
sur les réseaux sociaux en général,
sur notre site internet où il y a des formulaires qui sont possibles d'être remplis. Et derrière, donc ça peut être du petit groupe du coin de Bourgoin ou de Mérier qui va nous contacter, au plus gros groupe. Donc après, on a des demandes. Et puis après, bien sûr, il y a tout ce qui est boîte de production. Donc eux, ils ont énormément de grands et gros artistes dans leur book, qui nous proposent, et selon déjà notre budget. Donc déjà, c'est la plus grosse part, et c'est ce qui fait le tri en fait dès le départ, c'est le budget, parce que bien sûr on aimerait faire venir des grands artistes, mais on n'a pas le budget.
Évidemment.
Pour ça, donc ça fait déjà un morceau de tri. Et puis après, on essaye d'avoir un peu de rock, on essaye d'avoir un peu de chansons festives, du reggae, etc. Voilà, la variété. C'est vrai que l'année passée on avait déjà franchi le pas avec Sinsemilia qui nous avait fait plaisir de venir sur le festival, et donc c'était plus un son reggae ska, et ils ont été vraiment super contents. Et c'est vrai que derrière ils en ont parlé aussi à d'autres groupes qui ils ont dit que l'accueil était bon, etc., chez nous qui était très bon même,
et que pour des bénévoles on se débrouillait pas mal aussi sur la partie technique. C'est pas évident, hein, vous savez, les artistes souvent sont Exigeant.
Exigeant, oui.
Et je crois qu'ils ont compris l'état d'esprit de ce festival où, où justement on voulait autre chose, faire les choses bien, mais par contre être dans le partage aussi avec les groupes qui jouaient. Et donc Sinsémilia a apporté ce message-là, a entraîné aussi les autres groupes dans cette démarche. Et vraiment, voilà. Donc du coup, beaucoup de groupes maintenant veulent venir jouer parce qu'il paraît qu'à Moulinstock, on est très bien accueillis et que c'est très convivial.
Donc en fait, c'est votre atout, je veux dire, pour vous démarquer par rapport aux autres festivals, parce que ça doit être difficile quand même de faire la part, d'arriver à attirer. Il y en a pas mal de festivals l'été. Hein,
oui, et dans le même temps, on est très clair sur le fait que notre objectif, c'est pas d'aller concurrencer les Musilacs ou le festival qui est en Ardèche, à Luna Festival, où c'est des très grosses machines. Non, nous, on veut faire partager ce qu'on aime aux gens. Maintenant, forcément, le succès fait qu'en nombre, ça augmente et ça donne l'impression d'une grosse machine. Mais en réalité, on fait les choses de manière très très simple, avec les moyens qu'on a. Et on ne veut pas franchir des étapes qui seraient à la limite dangereuses pour nous et sur le secteur où on est. Il ne faut pas oublier que c'est un festival musical en milieu rural, avec un public souvent qui... avec qui on a besoin de beaucoup insister pour arriver à le convaincre et à le séduire. Donc voilà, comme on dit, on se prend pas la tête. Voilà, on fait les choses très très simples. On est une petite structure associative. L'argent qu'on a toute l'année, de toute façon, elle sert à financer une chose. Ce sont ces deux jours de festival. Donc voilà, il n'y a pas de stratégie. Commerciale débordante comme on peut voir sur un certain nombre de grands festivals.
Alors vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, et au niveau assurance, alors comment ça marche, parce que j'imagine qu'il
on est assuré
aussi
on est assuré comme n'importe quelle association qui organise une manifestation, mais on est aussi assuré en cas d'annulation s'il y avait une décision préfectorale de danger météo, là on est assuré et les groupes aussi sont assurés, le matériel.
Par contre, s'il y a une petite pluie, l'assurance, ça marche pas.
Oui, mais la petite pluie, souvent, elle est sympathique dans un festival.
Bon.
Et une fois que les gens sont là, de toute façon, les pieds dans la boue ou pas, ça rend le moment sympa. Donc voilà. C'est aussi ce public festivalier, sauf très gros orages, etc., il réagit pas tellement par rapport à la météo qu'il va faire. Mmh. Il réagit par rapport au moment potentiellement qu'il va passer avec nous. Donc voilà, les gens prennent leur billet avant. Donc même s'il pleut, en général...
Ils viennent.
Il y a des gens qui viennent de loin.
Le plus loin, l'an dernier, je crois qu'on était jusqu'à la région stéphanoise, Ardèche.
Mais de la Haute-Savoie.
Voilà. Mais on est très, très régional, de toute façon. C'est la région Rhône-Alpes. Ouais.
Alors combien de personnes?
Alors l'an dernier, en cumulé sur les deux jours, on a eu 3500 personnes. Et cette année, c'est pas un objectif en soi, je le répète, cette année on sait qu'on devrait être autour des 5000. Quoi.
Et combien de groupes alors?
Donc on a un groupe rock, vieux rock, qui s'appelle Elmer Footbeat, que tout le monde connaît. Ils reviennent, ils ont sorti l'année dernière un nouvel album. Ça fait partie de la musique qu'on aime, quoi, festive, qui rassemble un maximum de monde. Voilà. On a le Boulevard Désert, qui vient aussi cette année, ils ont été nommés aux Victoires de la Musique en 2013. C'est pareil, c'est du groupe français festive avec du cuivre, plein de choses qui nous font danser et chanter. On a Pierre-Paul Jacques qui revient aussi, qui ressort un album, qui a ressorti son single début 2014. On est content de l'accueillir, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, parce que voilà, c'est toute notre enfance. Et après, ça va se passer sur du groupe régional principalement. Donc vous allez avoir du groupe de Grenoble avec la Musgueule, qui fait de l'électro swing. Ils ont beaucoup tourné, tournent beaucoup en Europe. Ils ont un peu plus de mal en France. Ils commencent bien leur année avec beaucoup de dates en prévision. On a Sai, c'est un duo juste génial. C'est notre coup de cœur 2013 à Moulinstock. Les gens ont adoré, en redemandent. Deux guitares, deux voix, des mecs qui se sont rencontrés sur une piste d'athlétisme quand ils avaient 15 ans et qui font de la musique aujourd'hui et qui tournent bientôt dans tout le monde. Et vraiment, ils sont, faut les écouter, c'est vraiment génial, vraiment génial. J'aime ce qu'ils font. C'est du reggae acoustique à la Bob Marley, c'est top. Après, on a Mystical Faya, pour rester dans le reggae, qui a sorti son album début 2014, qui vient de Pontarlier, dans le Doubs. Une belle équipe, ils sont 8 sur scène et ils font vraiment du très très bon son. On a, pour changer un peu de registre, on a FCQG, donc Faut que ça guinche, c'est un groupe de Grenoble. C'est du rock, rock festif, un peu dans le style Elmer Footbeat, avec des paroles marrantes, quoi, de l'accordéon, de la contrebasse, des vrais artistes qui font vraiment bien bouger leur scène. On a Mu, un groupe de Villeurbanne, c'est un duo homme-femme. Donc lui, il est au beatbox, donc il fait de tout ce qui est instrument avec sa voix. Il chante aussi. Il a une pédale, il enregistre ses sons et il chante. Et elle est au piano voix aussi derrière. Et ça fait un mélange un peu jazz, électro, hip-hop, qui est vraiment super. Ouais, sur scène, ils sont que deux, mais ils ont vraiment du pâté, comme on dit dans le milieu. Cette année, on a essayé aussi d'aider à notre manière une association qui s'appelle l'association Psychomatique. Donc le président s'appelle Clément Dumont. C'est une association qui est sur la Ravoir, à côté de Chambéry. Ils ont monté, eux, cette association pour aider les handicapés à avoir accès à la culture. Donc voilà, ils écrivent des chansons. Clément va beaucoup dans des foyers, etc., où il y a des personnes en situation de handicap. Et ils chantent pour eux, simplement. Et ils organisent aussi un petit festival du côté de la Ravoir, voilà, où les fonds sont renversés pour les personnes handicapées, donc pour acheter des fauteuils, tout ce genre de choses. Donc on a vraiment voulu l'accueillir cette année sur notre festival pour pouvoir parler de lui, bah aussi sur les ondes, parce que c'est vraiment un grand homme et un mec qui a du cœur et qui se dévoue vraiment pour cette cause, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près de tous mes groupes.
Voilà, en découverte, les Babylones aussi, deux jeunes filles là qui sont de la région grenobloise. Voilà, comme Psychomatique, c'est un peu de donner la chance à ces deux jeunes filles de pouvoir démarrer. C'est une douzaine de concerts sur les deux jours.
J'oublie Vanupier quand même, qui a été aussi le coup de cœur de l'année passée sur le festival. C'est Sinsay qui nous avait amené l'année passée, donc en première partie. Et c'est quelqu'un qui joue vous avez pu le croiser si vous avez le prix métro parisien, et il y joue encore. Il a été découvert dans le métro, sur Châtelet. Et voilà, il était au Festival Moulinstock l'année passée. Moi, je suis allé le voir derrière à La Cigale, à Paris. Il a fait La Cigale. Et le lendemain de La Cigale, il était de nouveau dans le métro en train de jouer. Et c'est un artiste complet, vraiment. Voilà, c'est des mecs comme ça qu'on aime voir sur le festival, leur donner la chance de notre aventure, quoi, réellement.
Bon, bah écoutez, tout ça nous donne bien envie. D'aller à Moulinstock.
Mais il n'y a pas de souci.
Mais alors, par contre, alors on arrive avec sa voiture, il faut se garer. Donc, oui. Je suppose que vous avez des parkings. Oui. On peut avoir envie d'aller aux toilettes.
Il y
on
en
peut
a
avoir
aussi.
Envie de boire un coup. Enfin, voilà. Alors, il y a tout ce côté-là, éclairage.
Très, très grosse logistique. Hein,
oui,
je le disais tout à l'heure. On a de la chance, là aussi, d'être aidé parce qu'on nous prête aussi du matériel. Avec une association, d'ailleurs, avec laquelle on travaille dans l'année, où on a un partenariat. Une association qui est le Cotny, qui organise le Rhône-Alpes Isère Tour, hein, la course cycliste. On a un partenariat qui est très intéressant parce que nous, on n'a pas de matériel, mais on a des bras. Donc, sur la course cycliste, chaque année, on y va avec les bras, mais en retour, du coup, on peut bénéficier de beaucoup de matériel de cette association, de camions également. Et ça c'est pas négligeable, quoi. Et puis après, tout ce qui est chapiteau, tout ça, on trouve. Et puis on monte, et puis on installe tout. Après, on loue, tout ce qui est sanitaire. Bien évidemment, on est obligé de passer par la location. Mais sinon, toute la logistique est montée durant toute la semaine. Et il n'y a pas d'entreprise, à part pour la scène, puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très important et une très grosse logistique. Tout le reste est monté tout au long de la semaine par les bénévoles.
Et au niveau assistance médicale, il y a aussi, j'imagine...
Bien sûr, il y a un poste de secours. Ouais. En termes de sécurité, cette année encore, il y a une trentaine d'agents de sécurité sur le site. Hein, et pas que pendant les deux jours de festival. Du coup. C'est à partir du jeudi jusqu'au lundi. Donc voilà.
L'association Moulinstock, elle recouvre combien de personnes et le noyau dur de cette association, c'est combien de personnes?
Alors, le noyau dur, c'est celui qu'on appelle le groupe des 15. 15 dans l'association a travaillé tout au long de l'année pour la préparation du festival et également pour l'apparition sur un certain nombre de manifestations en local à Saint-Victor-de-Cessieux, comme le marché de Noël sur lequel on s'occupe du repas de midi, et puis nouveau depuis 3 ans sur la foire du 8 mai à Saint-Victor-de-Cessieux, où il y avait un besoin de dynamiser un peu les choses. Et donc là, on amène également des animations pour enfants, une buvette, animation pour enfants, et on fait un coin festif, je dirais, sur la foire. Donc ça, c'est le groupe des 15 tout au long de l'année. Et sur le festival, on va atteindre environ 70 bénévoles. D'accord. Voilà.
Ah oui, ça fait déjà pas mal de gens. Hein.
Voilà. Plus après le personnel technique de la société avec laquelle on travaille, le personnel de sécurité avec la société avec laquelle on travaille. En gros, oui, on doit atteindre 110 personnes, je pense, en tout, sur les deux jours pour que ça fasse, que ça fonctionne.
Et la communication, les partenaires. Vous en avoir aussi ?
Oui, la communication, c'est pareil. On a la chance d'avoir dans l'association quelqu'un dont c'est un peu le métier, la vocation, et qui fait tous nos supports. On ne travaille pas avec une entreprise de communication. Tout sort de chez nous. Tout ce qui est toute la partie graphique, etc. Tout sort
de. C'est quoi vos supports alors ? Du papier ?
Alors, forcément, hein, oui. Forcément du papier, mais
vous
aussi.
Vous distribuez où ?
Voilà.
Ça a été distribué notamment là sur la fête de la musique à Bourgoin. Il y a eu 1500 tracts là qui sont partis. Les affiches, c'est sur le maximum d'affichage libre qu'on peut trouver. Il y en a plus beaucoup, mais voilà, le but c'est ça. Et puis après, on le disait tout à l'heure, voilà, les radios,
les réseaux.
Et puis les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, on a une page Facebook où il y a plus de 1000 likes. Voilà, on a passé la barre des 1000 likes. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Parce que les gens échangent autour de notre festival. On voit leurs commentaires en plus. C'est pour ça que je disais qu'on va passer, à mon avis, très facilement de 3500 personnes à 5000. Parce que les gens en ont beaucoup parlé. Ils ont passé un très bon moment. Donc la meilleure communication, de toute façon, c'est celle-ci. Hein. On a un budget com qui est tout petit hein, pour ce genre de manifestation. Hein. C'est un budget qui est autour de 7000 euros. La com. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Et puis essayer de faire quelque chose de joli qui graphiquement attire l'œil.
Alors quel est le prix d'entrée ? Parce qu'on n'a pas parlé du prix.
Alors le prix d'entrée actuellement, on a le pass de jour, puisqu'on privilégie un pass de jour hein, en vente qui est en vente à 22 euros sur toute la billetterie nationale. Ça veut dire que Fnac, Fnac, Leclerc, Carrefour, Cultura, France Billets, voilà, sur tous les supports nationaux où vous trouvez nos billets. Ce pass de jour qui sera à 30 euros s'il est pris sur place. Donc, d'où l'intérêt.
Pour que les gens prennent à l'avance.
Voilà, d'où l'intérêt que les gens le prennent à l'avance. Et ensuite, on a des entrées spécifiques à 10 et 15 euros pour les gens qui souhaiteraient venir que le vendredi ou que le samedi. Et notamment l'entrée famille le samedi qui est à 10 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà. On essaye aussi d'adapter la tarification à ce qu'on recherche et à cet échange intergénérationnel. Voilà, donc ça c'est très important et on encourage bien évidemment à ce que les gens prennent des passes de jour, déjà pour découvrir tous les artistes présents.
Alors, dernière petite question, parce qu'on aime bien en général qu'on nous raconte un petit peu du réel, et on se demandait si vous aviez une petite anecdote à nous raconter sur un moment qui a été un petit peu peut-être compliqué ou des choses un peu.
Il y en a des moments compliqués.
Rigolotes qui se sont passées, qui sont des bons souvenirs.
Des quoi ?
Faites-nous partager ça.
L'anecdote en tout cas de l'an dernier, ça a été la peur de la météo. Pendant la semaine déjà et pendant les deux jours. Et l'anecdote, l'an dernier, c'est que quand la dernière note de musique a été jouée, eh bien, on a pris une averse comme on aurait redouté pendant les deux jours.
C'est marrant, j'avais exactement la même.
Finalement, l'équipe, donc on démontait la scène, les lumières, tout ça, sous la pluie, mais tout le monde était heureux, on était pieds nus sur la scène, on glissait. Mais voilà.
C'était fini.
La pluie est tombée, la dernière note de musique, c'était vraiment, sur la symbolique, c'était
les
génial.
Les dieux étaient avec vous.
Non, mais c'était vraiment.
Parce qu'il faut savoir qu'on avait aussi le vent en début d'après-midi et qu'on avait dû découvrir, en fait, la scène.
Débâcher la scène.
On avait dû débâcher parce qu'il y avait trop de vent.
Ah.
Donc on avait le toit de la scène pour pas qu'elle s'envole.
Donc on n'était plus à l'abri de l'eau.
On n'était plus à l'abri de l'eau non plus. Donc, 2h01, quand le DJ a mis stop. On a senti les gouttes tomber, les gens sont sortis, nous on a pris la rincée, à tout démonter sous une scène qui était en fait ouverte.
C'était vraiment le bon moment de l'année.
Donc ça démarre à quelle heure ? Parce que j'ai entendu que ça se terminait vers 2h, mais
à
ça
deux
démarre
heures,
à...
Ouais. Ça dépend des jours, tu peux...
Alors le vendredi, on attaque à l'ouverture des portes est à 18h, voilà. Et le samedi, l'ouverture des portes est à 15h.
D'accord.
Pour le village enfant notamment.
Pour le village enfant, oui. Le concours de la guitare, etc. Et les groupes commencent à jouer à 17h30.
Alors on va vous laisser peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire?
Moi j'avais encore une petite question qui venait de ma droite et vous allez comprendre pourquoi. On a parlé des enfants de moins de 12 ans et les retraités de plus de 65 ans, il y a des prix?
Alors,
me demande-t-on à droite.
Alors, on ne fait pas de tarifs précis, hein, la carte MRA, tout ça. Donc pour les retraités, il n'y a pas de tarifs précis non plus. Par contre, le pass de jour est à 22 euros comme pour tout le monde, y compris pour les retraités. Il n'y a aucun problème. Et si vous venez avant 18h le samedi, vous bénéficiez de l'entrée famille à 10 euros. Donc voilà. Non mais les tarifs réellement voilà, sont très abordables, c'est ce qu'on a voulu. Et y compris en termes de consommation sur place. Voilà, on est sur des consommations à 2 euros. Voilà, c'est pas. On essaye de faire en sorte que l'argent soit pas le frein principal à ce que les gens se déplacent pour ce genre de manifestation. Sinon, le partage n'y est pas, forcément, et le partage entre les générations non plus. L'an dernier, pour le repas du samedi soir, le troisième âge était très très bien représenté. Et d'ailleurs, on était séduits par Sai, hein, dont on parlait tout à l'heure, les deux copains là, qui jouent de la guitare. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas cette barrière-là. Mmh.
Voilà. Alors, un mot de la fin de la part de chacun d'entre vous?
Moi, je dirais merci, en fait. Merci à tous mes copains, merci à toute l'association et à tous ceux qui nous soutiennent. Merci, voilà, nos 15 potes avec qui on passe du temps. On se prend la tête, des fois, vraiment. On arrive à partir au clash, on arrive à se faire des grandes accolades. Voilà, c'est juste une bande de copains. Et merci à eux, de ma part, pour vivre tout ça, parce que pour moi, c'est vraiment un kiff de pouvoir faire ça. Jamais j'y aurais pensé. Sans lui, c'est pas possible. Sans tous les autres, Romain, Marjo, Caro, Dudu, Lucas, Elodie, Morgane, enfin je les
on va pas citer les 110.
Non, dans les 15, il y a des filles. Donc.
Ah oui, il y a des filles, il y a des garçons. Il faut tout, il faut des secrétaires, il faut des bricoleurs, il faut tout. Et donc, merci à eux. Pour moi, ce serait juste ça. Merci à eux.
Oui, je crois que, enfin, moi, je partage le dernier mot avec Yannick. Ce qui est très beau au-delà des deux jours de festival, c'est le projet associatif. Sur lequel on n'a pas eu à réfléchir pendant des mois et des mois sur du rédactionnel, etc. C'est un projet associatif qui s'est monté tout seul, qui fonctionne tout seul, et en fonction
tout,
de...
Tout seul, non. Non, on mais a compris que ce n'était pas tout non, à fait mais je, tout
je,
seul.
Quand,
hein.
quand je parle du projet associatif, je parle de l'état d'esprit et de la manière dont nos objectifs... deviennent très vite communs et on n'a pas
une synergie, vous voulez dire.
Voilà, et une synergie qui a été immédiate. Bien sûr, il y a des moments qui sont difficiles parce qu'il y a ça fait beaucoup de boulot. Bien sûr, des fois on n'est pas d'accord et c'est ce qui nous fait avancer, hein. Mais vraiment, voilà, ce qu'on doit mettre en avant là, c'est ce projet associatif basé sur le partage, à la fois sur son volet culturel mais sur le volet familial, sociétal, etc. C'est assez sympa d'ailleurs de pouvoir organiser ce genre de projet-là dans une commune rurale, là où parfois pour les associations c'est assez difficile de rentrer 3 sous pour 1 sou des écoles, enfin pour des choses qui à la limite sont beaucoup plus importantes que ce qu'on propose nous, puisqu'on propose du divertissement. Quand il y a des associations qui doivent payer de la fourniture scolaire, c'est toujours un peu plus compliqué. Si le bal du sous des écoles marche pas, c'est les enfants qui en pâtissent tout de suite. Derrière, on n'a pas cette pression-là, ce qui fait que voilà, on est simplement content de faire ce qu'on fait. Quand on peut donner le coup de main d'ailleurs aux autres associations aussi, ben on le fait volontiers.
Et ben, il nous reste à vous remercier,
hein, merci
Yannick
à vous.
Et Gérald. Merci, et, voilà, merci beaucoup. Vous nous avez fait partager quelque chose. On a tous envie de venir vous rejoindre.
Exactement.
On espère bien, on vérifiera. On a pris les photos, vous êtes sur les photos, on la laissera à l'entrée.
On va noter les noms. Mais merci de nous avoir accueillis, en tout cas, c'était très sympa.
Oui, merci beaucoup.
Tous à vos agendas, 25 et 26 juillet.
Incontournable en ces périodes de fête de la musique, la voix de Jacques Lang.
Si vous voulez, bon, que cette petite idée née sur les rivages de la Seine puisse traverser les frontières, être adoptée et éventuellement transformée, et que ce 21 juin soit une sorte de fête de l'amitié internationale, un lien entre les pays, entre les jeunes des différents pays du monde. On pourrait faire mieux encore, vous savez, mais quand même, c'est assez impressionnant de constater que chacun à leur manière participe à l'événement.
Donc merci Jacques Lang pour ces fêtes de la musique que nous attendons toujours avec impatience tous les 21 juin. Et depuis le tout petit village en France jusqu'à la grande ville, il y a des tas de manifestations intéressantes ou quelquefois un peu moins, il faut le dire. Mais enfin, on y passe de bons moments. Et voilà.
Et bien maintenant, c'est le temps de notre petit moment agenda. Ben, je vais commencer par un endroit qui est assez sympa, qui s'appelle la Grange d'Imières et qui est au Pin, vers le lac de Paladru, et qui propose pas mal de choses pendant tout l'été. Des sculptures avec Vincent Gontier sur la totalité de l'été. Une visite le 5 juillet, si vous êtes intéressé par l'histoire de la Grange d'Imières. Des stages pour les 7-12 ans, où vous pourrez construire votre maison idéale ou créer avec un céramiste des sculptures être fantastiques. Vous avez aussi de la danse avec le 10 juillet une compagnie qui propose un spectacle qui s'appelle Rituel, hein, avec du violoncelle, du théâtre dansé et des matières vivantes. Également une compagnie qui propose un spectacle Abrité, H-A-B-R-I-T-E-R, le 17 juillet. C'est la compagnie Les Os Posés. Du cirque avec le 1er août les Moldaves et surtout un festival Les Nuits hors la Grange du 1er au 3 août où dans le verger de la Grange d'Imières il y aura des soirées adaptées au jeune public avec des rendez-vous artistiques variés, aussi bien du cirque, des clowns, de la comédie, et tout ça est à voir en famille.
Alors si on passe le Rhône, eh bien, rendez-vous le 6 juillet à la salle des fêtes de Brégnier-Cordon, où Buget Sudactif fête ses 30 ans, avec le matin à partir de 10h une grande balade qui vous conduira jusqu'à la maison des enfants d'Isieux, un pique-nique géant, des animations pour tous, un spectacle en famille à 20h30, un concert et bal. Et je vous donne le téléphone 04 74 39 73 21 pour plus d'informations.
Une information au niveau de la Cité de la Cave de Bourgoin-Jallieu. Pour ce mois de juillet, nous vous proposons trois sorties familiales, donc le 10 juillet à Tour-au-Parc, le 17 juillet à la Grotte de la Balme, le 24 juillet au Château Lomprat et au lac de Romagneux. Il y a également des ateliers avec Écolégramme le 8 et 9 juillet, le matin de 9h30 à 11h30. La ludothèque est ouverte les matins de 9h à 11h45 et les après-midi, le mercredi 9, 16 et 26 juillet, la ludothèque est en extérieur au parc Réo, à côté de la sécurité sociale de 15h à 18h. Et un tout petit mot, un petit coucou à Eric Doxet qui nous écoute en Haute-Marne. Bonnes vacances! Rendez-vous en septembre pour la continuité de notre émission Fenêtre sur cour qui redémarrera le premier lundi de septembre. À 9h à la Cité de la CAF. Donc merci de nous retrouver si vous avez envie de participer.